France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Max Emmanuel Cencic. Je suis né en 1976 à Zagreb et je suis contre-ténor.
Après une enfance, on a vu Max Emmanuel Cencic qui se déroule entre le sud de la Hongrie et puis Zagreb avec cette vie de coulisses de parents musiciens. Une vie où, parmi les enfants, vous êtes peut-être un petit peu seul. Vous êtes plus dans le monde des adultes. Une voix qui commence à s'installer, quelques concerts et cette envie ou cette idée qu'a votre mère de vous faire entrer dans un chœur d'enfant, ça va être donc la fin des années 80, 87 à peu près, c'est ça? Vous avez 11 ans?
Oui.
Et vous entrez au Petit Chanteur de Vienne. Ça veut dire, Petit Chanteur de Vienne, que vous êtes pensionnaire. Vos parents, eux, demeurent à Zagreb avec votre sœur.
Oui.
C'est quand même une première césure dans la vie, même si on rentre le week-end, non?
Oui, c'était un grand changement. En plus, moi, j'ai pas parlé allemand du tout. J'étais obligé à apprendre allemand en 6 mois ou 7 mois, justement pour finir la quatrième classe. Et c'était dur, hein, surtout parce que apprendre pas qu'allemand, mais aussi une nouvelle culture, un nouveau rapport entre des enfants, des amitiés, tout ça, c'était compliqué. Mais après 1 an et demi, 2 ans, je me suis bien adapté. Et la chose qui est bien avec des enfants, c'est en général, les enfants sont très adaptifs. Donc, à 10 ans, 12 ans, ça passe encore très vite. On apprend les langues très, très vite.
Et là, peut-être que enfin, vous n'étiez plus seul parmi des enfants qui comprenaient pas tellement ce qui vous anime. Vous vous retrouvez avec d'autres enfants qui, eux aussi, partagent la passion de la musique.
Oui, pas tous, bien sûr. Il faut toujours penser qu'il y avait aussi des enfants qui n'avaient pas du tout envie d'y aller, mais que c'était les parents.
C'était votre cas?
C'était les parents, non, pas moi, mais c'était plutôt les parents des autres, quelqu'un qui voulait que les enfants deviennent absolument des chanteurs d'opéra. Il voulait pas du tout, mais bon, il était là. C'est drôle. Oui, les petits chanteurs de Vienne, c'est plutôt une école musicale qui n'est pas... Comment je peux dire, c'est pas une institution qui donne cette perspective ou expectation à un enfant de devenir un musicien. Donc 90% des enfants qui sont dans cette école-là, ils sont jamais plus après musiciens. Ils poursuivent des carrières très très différentes.
Vous rencontrez là des professeurs, des chefs de chœur, des gens importants dans votre parcours, des gens qui vous inspirent?
Ah oui, partout. Moi, quand j'étais pendant 5 ans dans cette chœur, on a travaillé vraiment avec des grands stars. C'était Harnoncourt, Scholti, Riccardo Muti, c'était que des gens comme ça. Donc, on était à Salzbourg, on était à Vienne, mais aussi dans les tournées. Dans l'entier monde, on faisait des centaines et centaines de concerts. C'était énorme.
Et ça, c'était agréable ou c'était oppressant? Enfin, je me dis peut-être qu'il faut aussi avoir cet instinct un peu grégaire d'aimer vivre en communauté. Finalement, on passe d'un moment où vous êtes peut-être un peu seul à un moment où vous ne l'êtes plus jamais. Comment vous avez vécu ces années-là?
Au début, c'était un peu désagréable, bien sûr, parce qu'on a besoin un peu de temps de rentrer dedans. Et c'était dur parce que cette école est un peu militaire. On se lève à 6h matin, on n'a que 30 minutes pour se préparer, pour sortir, manger 20 minutes, 30 minutes. Après, c'est l'école. Après, donc, c'est très tac-tac. L'entière journée, elle est très réglementée. Et on n'a pas beaucoup de liberté ici. Mais après quelques temps, voilà, on s'adapte. Et c'est vrai que quand on part dans les pays qui sont très intéressants, alors pour moi, par exemple, partir 3 mois en Japon, c'était voilà, délire. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Japon. Donc, passer 3 mois à Japon, c'était vraiment super.
Vous avez mis à profit les leçons de japonais que vous aviez eues quand vous étiez petit.
Oui, c'est ça. Et aussi, si vous, pour exemple, les tournées aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé parce que on est passé 4 mois aux États-Unis en faisant une espèce de tournée avec un bus. Et c'était un peu comme un road tour parce que on passait sur des chemins, autoroutes, disons, en Nebraska ou Arkansas, au milieu de nowhere. Et c'était très inspirant de voir tout ça.
Vous vous retrouvez donc dans cette vie qui, d'une certaine façon, même si vous nous le dites, hein, le plus grand nombre des enfants qui sont là ne deviendront pas musiciens. Cette école des petits chanteurs de Vienne, c'est quand même très professionnel. On attend du cœur des petits chanteurs de Vienne l'excellence, etc.
Oui.
Tous les jours, ce sont des leçons de musique. Là, vous avez des professeurs. La technique que vous a donnée votre mère, elle tient le choc. Comment vous travaillez à ce moment-là?
C'est vrai, c'est une organisation d'une très grand professionnalisme aussi musicalement. C'est pas que apprendre la musique et être bien dans son solfège ou dans un instrument particulier, mais c'est vraiment aussi en même temps d'aller à la scène et de faire la performance. Et pas que ça. Nous, on a fait chaque jour un concert dans une autre ville. Même aujourd'hui, je fais jamais des tournées comme ça. Mais à ce temps-là, on a fait le soir concert Tokyo ou je ne sais pas Washington. Le lendemain, on prenait soit vol, soit bus, 3-4 heures. On arrive le soir, un autre concert dans un autre endroit. Et c'est comme ça, 6 ou 7 concerts, un après l'autre. Donc si vous faites ça pendant 3 mois ou 4 mois, c'est la folie à la fin.
Dans les grands souvenirs, qu'est-ce qui reste pour vous aujourd'hui de ces années-là, des petits chanteurs?
Ouf, plein de choses. Ce qui m'a resté très fort dans mon mémoire, c'était la musique de Bruckner. Parce que les messes de Bruckner sont, à mon avis, hyper dures. Et moi, je me souviens toujours qu'on a fait des répétitions qui duraient 1 mois ou 2 mois pour préparer une messe de Bruckner. C'était insupportable, insupportable. Et à la fin, on a dû se lever à 6h, 7h matin, parce que la messe commençait à 8h, à la chapelle impériale. Et c'était étonnant, parce que au début, on était vraiment dégoûtés par les répétitions de piano. C'était long, c'était vraiment désagréable. Mais avec l'orchestre, la Philharmonie de Vienne et tout ça, ça donnait une espèce d'énergie, cette force et tout ça. J'étais plutôt palpitant là, en chantant cette musique-là, et avec des aigus extrêmes en même temps, et pianissimo qu'il faut chanter. À 8h matin, allez, bonne chance. C'était vraiment incroyable.
France Musique, les grands entretiens de Max-Emmanuel Tchentchik.
Vous parliez des messes. Je me demande si jamais aussi dans votre famille, il y avait une culture religieuse ou pas.
Non, pas du tout, parce que dans notre famille, disons, la religion n'était jamais une question de la tradition, mais plutôt du choix personnel. Donc, par exemple, ma grand-mère de ma mère, elle était extrêmement religieuse. Les dimanches, quand elle ne pouvait pas sortir, elle avait le prêtre venir chez soi pour faire la messe à côté de son lit. Voilà. Donc, elle était hyper, hyper religieuse. Mais après, ma grand-mère, pas du tout. Elle n'était pas religieuse. Et ni mon grand-père, ce qui causait beaucoup de stress. Voilà. Parce que la mère de mon grand-père, elle était fâchée contre mon grand-père pour comment il a pu se marier avec quelqu'un qui n'était pas du tout religieux et tout ça. Après, moi, je suis vécu dans les écoles religieuses. Alors, j'étais en Angleterre, dans un monastère. J'ai vécu avec des bénédictins. J'étais les petits chanteurs de Vienne. Et c'est pas vraiment une école qui appartient à l'Église catholique, mais très fortement liée avec l'Église. Donc, comme ça, moi, je suis vécu avec une tradition catholique chrétienne, mais je ne suis pas, comme beaucoup de gens, un catholique très pratiquant, disons. Je ne vais pas à l'église chaque dimanche, mais j'ai la compréhension et la connaissance de tout ce qui m'entoure.
Il va y avoir dans cette période-là, on imagine, hein, chez un jeune garçon qui a du coup entre 11 ans, 15 ans à peu près, quand vous êtes au petit chanteur, la période de la mue. Vous avez mué, vous avez perdu votre voix?
Non,
ou pas?
Moi, pas du tout. C'est ça qui était chez moi un peu étrange à ce temps-là. Moi, j'ai jamais mué. J'ai pas mué. Donc, on m'a gardé encore à 15 ans pour que je chante comme soliste dans des différents projets. Et là, à 15 ans, je me suis dit, mais bon. Je vais me lever un jour, je vais devenir ténor, non? Parce qu'il y avait beaucoup des chanteurs qui me demandaient, ah, tiens, tu as 15 ans. Oui, moi, j'ai aussi chanté à 15 ans ou 16 ans, et d'un coup, je me suis levé le matin, j'étais ténor. Et moi, je me suis dit, ok, un jour, je vais me lever, je vais devenir ténor, alors. Mais cette matin n'est jamais devenue réalité. Donc, je suis resté toujours soprano, miraculeusement. Et à 15 ans aussi, quand j'ai fini les 15 ans, j'ai dit à ma mère, j'ai pas envie de rester plus à Vienne. J'ai pas envie aussi d'être dans une école musicale. Ça m'intéresse pas. J'ai dit que moi, j'aimerais travailler dans la politique internationale, dans la diplomatie. Donc moi, j'aimerais partir en Angleterre, finir le baccalauréat là-bas et aller étudier l'histoire à Oxford. C'était mon projet. Et ma mère dit, bon, voilà, vas-y, Angleterre, alors. Et là, j'étais dans cet monastère bénédictin dans lequel je me suis préparé pour aller à l'Oxford. Et je voulais pas chanter. Donc, à Oxford, ils n'ont pas m'accepté. Mais ils ont dit, ben, pourquoi vous n'allez pas à Magdalen College pour le chœur? J'ai dit, oh, non, pas le chœur encore. Je vais pas faire la musique, quand même. Ils ont dit, oui, mais vous voulez faire l'histoire qui se concentre sur la question de Balkan. Et ça, c'est insignifiant pour nous. Je me suis dit, bah, ok, c'est insignifiant. Quel dommage, parce qu'aujourd'hui, avec l'expansion européenne, ça serait tel important, en fait, d'avoir un spécialiste pour le Balkan. Mais bon, en tout cas, je me suis retiré de cette idée-là et j'ai trouvé une place aux États-Unis pour étudier les relations internationales. Et donc, c'est ça que j'ai fait après.
Quand vous vous retrouvez en Angleterre, il y a une tradition évidemment musicale, chorale, magnifique. Mais alors, pour le coup, ça, vous n'en avez pas. Oui, vous êtes passé à côté. Vous n'aviez pas envie.
Non, pas du tout. Après 5 ans de petite chanteur de Vienne, je me suis dit, c'est assez. C'est assez. J'en ai marre. Je ne veux pas. C'est ça.
Devenir le spécialiste de l'histoire des Balkans. Évidemment, on est là aussi au début des années 90. La Croatie, c'est aussi quand même des changements extrêmement importants. Quel est l'impact aussi politique sur la vie de votre famille?
Oui, maman, moi j'avais cette idée que j'aimerais travailler dans le ministère des Affaires étrangères, quelque chose avec des langues, parce que moi j'ai déjà parlé à ce temps-là 4 langues. Donc je me suis dit, ça serait bien d'utiliser plus cette chose-là. Alors aussi que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et la politique, et la sociologie. J'étais plutôt dans l'idée peut-être d'aller à la recherche politique ou des choses comme ça. J'avais pas trop l'idée de faire politicien ou de faire le diplomate, mais plutôt quelqu'un dans la recherche, voilà. Et j'avais envie d'avoir une vie un peu plus calme et pas exposée.
Et donc, quand même, je réitère ma question sur cette vie politique en Croatie, dans ces années-là, des années 90. Vos parents, eux, demeurent en Croatie. C'est vous qui êtes à Vienne, c'est vous qui êtes en Angleterre ou vos parents vous suivent à Vienne, à Vienne, non, mais en Angleterre.
Mes parents sont restés à ce temps-là en Yougoslavie, qui existait encore à ce temps-là, mais début des années 90, bien sûr, la guerre commençait. Donc mes parents, ils ne pouvaient pas rester plus parce que la situation était trop explosive. Mon père, il a fui pratiquement les bombes, le bombardement de son opéra à Osijek, parce qu'à ce temps-là, il était déjà directeur d'opéra à Osijek. Donc il a dû fuir en Italie. Et il était réfugié chez la femme de Lovro von Matačić, qui était son professeur, qui était déjà décédé. Donc, Yasmina, il a lui accueilli à Milan. Et moi, j'étais à Salzbourg à ce temps-là avec ma mère, parce qu'en août, quand on a dû partir à Salzbourg pour le festival, et d'un coup, le taxiste disait, en faisant une blague, « Ah, vous êtes en fuite alors de la guerre ?» Nous, on était un peu en choc. On a dit, mais c'est quoi cette blague-là? Mais vous ne savez pas, le président, il a déclaré la guerre. Et nous étions un peu choqués parce qu'on a dit, quelle guerre? Vous parlez de quoi? Quand on est vraiment arrivé à Salzbourg, on a vu dans la télévision le bombardement partout, à Zagreb, en Slovénie. C'était l'armée partout. Ils ont fermé les frontières, ils ont fermé les comptes, on n'avait pas l'accès à l'argent, c'était complètement un désastre.
Et votre père en Italie et vous à Salzbourg alors ?
Voilà. Pour mon père, en plus, on ne savait pas où est-ce qu'il était parce que pendant 3 mois, on n'avait pas entendu rien de lui. Il a disparu. Parce que lui, il s'enfuit en fait en marchant pour traverser la frontière et aller en Italie. Donc, pendant tout ce chaos qui s'est passé, on ne savait pas où est-ce qu'il était. On a cru qu'il était mort. Et après 3 mois, on avait un appel de Milan et il a dit « Voilà, je suis à Milan. » J'aime pas me trop souvenir à cette période-là. C'était pas une belle période.
Et donc, quand vous vous retrouvez dans ces écoles anglaises, qui j'imagine sont des écoles privées, très chères, et que toutes les banques sont bloquées, on se retrouve aussi avec, je sais pas, des difficultés, des responsabilités.
Oui, c'est ça. Moi, ce temps-là, j'ai décidé donc de donner des concerts solistiques. Et avec cette concert, j'ai financé mes études en Angleterre et ceux de ma sœur.
Finalement, vous avez repris la musique un peu par nécessité.
Voilà, c'était par nécessité que j'ai dû chanter pour payer mon école.
Max-Emmanuel Tchentchik, là où on ne l'attend pas, ici en compagnie de Norman Schettler dans Station de Schubert, pour refermer le deuxième épisode de ces grands entretiens avec le contre-ténor Max-Emmanuel Tchentchik. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Jazzenhaus, mixage Philippe Mercher, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.